d'actu avec Charlie Pless sur Radio Alpa.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans C'est d'actu. Aujourd'hui, nous faisons un débat, une émission pour éclairer les questions qui entourent le programme EVARS. Depuis la rentrée 2025, les programmes EVAR et EVARS sont entrés en vigueur dans les écoles, les collèges et les lycées. EVARS, c'est l'acronyme d'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle. Depuis 2001, pourtant, déjà, les élèves étaient censés recevoir 3 séances annuelles d'éducation à la vie affective et sexuelle, mais dans les faits, il était très peu appliqué. Plusieurs rapports depuis 2016 font le constat d'un échec. Les 3 séances apparaissent comme un objectif pédagogique inatteignable. Le Conseil économique, social et environnemental a publié l'année dernière un avis selon lequel moins de 15% des élèves bénéficient d'éducation à la sexualité malgré l'obligation légale. Un manque d'effectifs qui a conduit plusieurs associations, dont le Planning Familial, à déposer un recours contre l'État pour manquement à son obligation d'éducation à la sexualité. C'était en 2023. Aujourd'hui, donc, un nouveau programme EVARS a été adopté et mis en application depuis cette rentrée 2025. Il prévoit 3 séances par an d'éducation à la vie affective et relationnelle dans le premier degré et d'éducation à la vie affective et relationnelle et à la sexualité dans le second degré. Mais alors, que propose concrètement ce programme? Promet-il d'être davantage mis en place que ce qui était déjà instauré dans la loi de 2001 et par quels moyens? Pourquoi aborder ces sujets dans les classes? Et quels sont les besoins des élèves et des familles? Pourquoi certaines d'entre elles regroupées en associations s'y sont-elles opposées? Pour éclairer les enjeux et les objectifs autour de ce nouveau programme d'éducation, je reçois Blandine Chesneau, coordinatrice du pôle conseil au planning familial du Mans, Fabien Esteliano, vice-président de la Fédération des conseils de parents d'élèves des écoles laïques en Sarthe, ou FCPE 72, Rose Franchetot, co-secrétaire départementale du FSUS NUIPP, syndicat représentatif du corps enseignant du premier degré, ainsi que Anna Olivier, psychologue spécialisée dans le développement de l'enfant et qui intervient notamment en milieu scolaire, dans les établissements d'enseignement catholique en Sarthe. Bonjour à toutes et à tous.
Bonsoir.
Bonjour.
Bonsoir.
Alors je précise avant de commencer que j'avais également invité le SNEC CFTC, Syndicat National de l'Enseignement Chrétien, ainsi que la Direction Diocésaine de l'Enseignement Catholique Sartois, mais malheureusement ni le SNEC CFTC ni la Direction Diocésaine n'ont répondu présent. Alors d'abord, avant d'entrer dans les questions liées aux enjeux autour du programme EVARS, commençons peut-être par expliciter les termes. Qu'est-ce que ça signifie en fait, vie affective, vie relationnelle et sexualité? Comment comprendre ces termes dans le programme? Du coup, je m'adresse peut-être au planning familial ou à Anna Olivier. Est-ce que vous sauriez nous dire ce que ça signifie ces termes-là?
Eh bien, disons que vie relationnelle, affective et relationnelle, c'est travailler tout ce qui est autour des émotions, bien se comprendre, comprendre son corps, comprendre comment on fonctionne, et puis comprendre l'autre, c'est-à-dire comment l'autre également fonctionne et comment surtout rentrer en relation avec les autres. Voilà.
Et donc Blandine Chesneau du planning familial, vous êtes d'accord avec cette définition?
Tout à fait, c'est aussi connaître, j'ajouterais nous, ça va être aussi connaître son corps, puisqu'on va intervenir plus sur les années collège et lycée, les besoins aussi, la notion du consentement, mais déjà dans les toutes petites classes, c'est déjà abordé, mais c'est transversal aussi dans nos interventions.
Et alors pourquoi aborder ces notions à l'école, au collège, au lycée? Quel enjeu en fait derrière l'éducation à la vie affective, relationnelle et à la sécurité? À quoi ça sert en fait concrètement? Alors là, je ne sais pas qui veut prendre la parole. Je pense que la question peut s'adresser un peu à tout le monde, car chacun peut avoir, je pense, un angle différent sur la question.
Alors effectivement, il y a plusieurs angles, plusieurs objectifs et plusieurs enjeux en fait à l'éducation de l'EVARS. Moi, par contre, le premier auquel je pense, alors qui est loin d'être le seul, hein, mais le premier auquel je pense, c'est la protection des enfants qui subissent des violences sexuelles et qui en fait ne savent pas qu'ils ont le droit d'en parler, que ce n'est pas normal, et en fait, c'est pouvoir leur permettre déjà d'avoir un cadre où ils puissent s'exprimer là-dessus et aussi leur faire comprendre que des attouchements ou des violences sexuelles, ce n'est pas normal dans la vie d'un enfant. À mon sens, déjà, c'est la priorité. Après, il y en a d'autres qui seraient déjà la rentrée en fait, dans une sexualité positive qui se passe à un moment où on est prêt. Bien évidemment, il est hors de question de parler de pratiques sexuelles à des enfants de 5 ans ou à des enfants de 7 ans, mais en tout cas de faire comprendre à l'enfant en construction ce que peut être la sexualité, comment ça se passe, comment on entre en relation avec l'autre. Je reprends la définition des personnes qui sont avec moi. Et du coup, pouvoir être bien avec soi-même et donc pouvoir entrer en relation avec les autres et dans une sexualité positive.
Donc on vient d'entendre Rose Franchetot hein, de la FSU SINUIPP. Je me tourne vers vous peut-être Fabien Esteliano. Est-ce que c'est aussi une demande de la part des parents d'élèves?
Bien sûr, il faut absolument qu'on réfléchisse à ce que Rose vient de dire sur le respect et le consentement. Il y a une autre partie qui a été importante sur laquelle l'FCPE a quand même aussi voulu y mettre sa patte, c'était dans le programme pour l'EVAR, donc l'élémentaire et la maternelle, c'est aussi de parler d'adultes de confiance, parce qu'il faut aussi savoir à qui pouvoir parler de ces difficultés-là. En famille et hors famille, puisque les difficultés peuvent avoir lieu dans les deux situations. Et puis voilà ce que l'on disait tout à l'heure avec Madame Olivier ou Madame j'ai oublié Chéneau, je crois, c'est cela, concernant voilà le respect, la relation, la prévention des risques. Il y a une chose qui est importante peut-être nous qu'on n'a pas abordé, qui est importante chez les parents très souvent aussi, c'est le harcèlement. On a vécu ces dernières années nous beaucoup de problèmes de discrimination, de harcèlement lié au genre ou aux discussions autour du genre. Et ces situations de violence-là, c'est aussi important d'en parler. Peut-être l'inclusion aussi, quelque chose de très important sur lequel on n'a peut-être pas abordé, mais bon, parce qu'on n'a pas pu tout dire pour l'instant. Mais voilà.
Alors on reviendra effectivement un moment sur les questions de harcèlement. D'abord, je voudrais revenir vers nos deux autres invités, donc une psychologue et une conseillère au sein du planning familial. Donc finalement, vous êtes assez concernés par ces questions d'éducation à la vie affective, relationnelle et à la sexualité. D'abord, je me tourne vers vous, Blandine Chéneau. Est-ce que ça vous semble important que ces questions-là soient aussi abordées au sein des établissements scolaires ?
On voit bien que dans les jeunes qu'on reçoit au planning, 60% de notre public a moins de 20 ans. Donc c'est principalement des jeunes ados et des adolescents et aussi des jeunes adultes. On voit bien que tous ces jeunes qui viennent vers nous, qui pour une majorité est dans des prises de risque. Et on voit que aussi, on remarque que ce sont aussi des élèves qui ont parfois n'ont pas eu de base, en effet, soit parce que dans la famille c'est un sujet tabou et on ne parle pas de sexualité, mais aussi des élèves qui n'ont pas eu forcément autant d'animation et autant d'intervention sur les questions des VARS. Et qui, en effet, n'ont pas trouvé la ressource au moment où peut-être qu'ils sont rentrés dans la sexualité. Ils auraient peut-être pu éviter avoir un autre positionnement sur la relation à l'autre. On remarque que ces enfants et ces jeunes, parce que parfois c'est quand même des très jeunes, hein, on a des difficultés aussi avec des très jeunes ados qui sont aussi dans des représentations de positionnement de garçons et de filles où il y a vraiment besoin de retravailler ça, de retravailler sur la représentation, leur positionnement. Et qu'est-ce que la relation à l'autre ? Et on voit bien que plus l'enfant, plus le jeune a eu cet enseignement tôt. Hein, on a fait des séances en école primaire, 8-10 ans. Et on récupère aujourd'hui des adolescents de cette période-là, de quelques écoles sur Le Mans. Et on voit que il en reste quand même quelque chose. Je pense que c'est un parcours tout au long de la vie du jeune, hein, de l'enfant et du jeune.
Donc Anna-Olivier, vous intervenez auprès d'enfants, donc en général un public encore plus jeune que celui que reçoit le planning familial, et vous êtes spécialiste du développement de l'enfant. Quel est votre avis, vous, sur cette éducation à la vie affective, relationnelle et à la sexualité au sein des établissements scolaires, pardon?
Eh bien, moi j'ai envie de dire que si on parle d'émotions et de relations aux autres, je ne peux être que favorable par rapport à ce programme-là. Faut pas oublier que les enfants, même au jour d'aujourd'hui, savoir ce que c'est qu'une émotion, savoir la nommer, savoir aussi quoi en faire, et surtout ne pas culpabiliser d'avoir cette émotion-là, c'est encore d'actualité. Hein. Et puis c'est surtout aussi comment faire pour la traverser, cette émotion-là. C'est-à-dire qu'il y a déjà des choses de fait hein, dans les établissements, on le voit bien, notamment en maternelle et en primaire. Mais je trouve qu'on ne va pas au bout des choses. On s'arrête à un moment où il faudrait peut-être aller un petit peu plus loin et puis savoir qu'est-ce qu'on en fait, savoir quoi en faire de cette émotion-là, comment la traverser et surtout se dire comment je peux dire à l'autre ce que je ressens. Et ça, ce n'est pas forcément encore le cas aujourd'hui. Hein. De même que rentrer en relation avec l'autre, parfois les enfants n'ont pas les mots et ça se transforme par des gestes agressifs.
Alors on va revenir maintenant sur les objectifs de ce programme EVARS et EVAR. L'un des objectifs de ce programme, c'est de lutter contre la désinformation véhiculée notamment par la pornographie. 2,3 millions de mineurs se rendent sur des sites pornographiques chaque mois en France et ce dès 12 ans, selon un rapport de l'ARCOM datant de 2023. Cette année, l'État a mis en place une réglementation pour mieux empêcher l'accès aux mineurs aux principaux sites pornographiques. Cependant, ce dispositif est imparfait. Par exemple, les mineurs risquent de se tourner vers d'autres sites moins connus et potentiellement moins réglementés dans leur contenu. Comment elle est abordée, en fait, cette question de la pornographie avec les jeunes? Et je me tourne peut-être vers Rose Fonchelot en tant que professionnelle enseignante.
Ouais, alors, déjà, pour commencer, la question des images pornographiques et des dangers d'Internet, en fait, n'est abordée qu'à partir du CM2.
Dans le cadre du programme, ouais.
Dans le cadre du programme, c'est vraiment abordé que dans le cadre du CM2, où on peut commencer à parler d'une consommation, si je puis dire, d'Internet, où il faut faire aussi attention. Enfin, c'est comme un de mes formateurs m'avait dit quand je commençais tout juste, c'est comme quand on apprend à nager, on va pas directement sans brassard dans le grand bain. Généralement, on nous apprend à passer dans la pataugeoire et puis après le petit bassin, puis après on prend les brassards exactement. Et c'est vraiment le but de l'école, c'est de donner des aides et des outils pour que les enfants comprennent qu'il y a des sites où il faut faire attention, des images qui sont véhiculées qui peuvent être choquantes. Et ce que j'ai envie de dire aussi, c'est que même si on n'aborde pas la question des images pornographiques tout de suite, parce qu'on attend quand même quelques années avant d'en parler stricto sensus.
Pourtant, si je puis me permettre, on estime quand même que 11%, ce qui est une proportion non négligeable, 11% des moins de 7 ans ont déjà eu accès à de la pornographie. Le problème commence avant, finalement.
Ouais, l'âge moyen, c'est bien 10 ans des premières d'avoir accès au contenu pornographique. Donc effectivement, c'est un chiffre qui est quand même très 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 jeune. Donc là aussi, c'est tout notre travail qu'on va dire qui peut être fait en amont pour parler de ça. Mais justement, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a aussi d'autres sujets en fait au-delà de la question pornographique, mais c'est surtout de l'image de la femme qu'on aborde en fait tout de suite dès le CP et même dès la classe maternelle. Je me trompe même parce que c'est même dès la classe maternelle qu'on parle des stéréotypes de genre. Donc en fait, c'est aussi une manière aussi de contrer en fait des images pornographiques qui peuvent être violentes. En tout cas, dans les réseaux pornographiques mainstream. On parle aussi du consentement, comme l'avait dit Madame Chéneau, on en parle très rapidement, donc de la maternelle jusqu'à la terminale, je pense que c'est un sujet. Donc c'est pareil, c'est aussi contrer en fait les images qui peuvent être véhiculées via les images pornographiques.
Et alors Blandine Chéneau, planning familial, comment est-ce qu'on aborde la question?
Alors on l'aborde de plus en plus, pratiquement systématiquement dans toutes nos interventions au collège. Et naturellement au lycée aussi, mais on a plus des petits groupes en collège, on intervient beaucoup en 4e, 3e, et en fait, c'est souvent les élèves qui l'amènent, cette question, en fait, à travers les représentations, notamment des corps et de la notion du consentement et aussi du plaisir, eh bien, il y a toujours un élève qui va lâcher quelques mots, disant que lui sait, il connaît. Et là, on arrive sur la question de à quoi ça sert toutes ces images. Et les échanges sont toujours assez disparates, en fait, parce que dans une même classe, il y a à la fois des enfants qui n'ont jamais vu d'images pornographiques et qui sont choqués par ce qu'ils entendent. Donc, il faut être aussi prudent sur notre discours. Et puis il y a ces enfants qui paraissent complètement débridés, et puis il y a des enfants aussi qui sont des jeunes qui sont en souffrance parce que en fait ils en ont tellement vu que dans le discours que nous on va tenir sur la notion de respect, la notion de découvrir le corps de l'autre, de la place de la femme aussi dans ces films, dans ces vidéos pornographiques, eh bien, il y a des élèves où on sent qu'on les perd
au fil de l'intervention. Et c'est là tout l'intérêt aussi de travailler aussi avec les équipes éducatives et de pouvoir avoir une continuité aussi après nos interventions. C'est vrai qu'une seule intervention par an, comme ça se faisait jusque-là pour nous, planning, hein, notre souhait, c'était vraiment de pouvoir intervenir plusieurs fois sur les mêmes groupes. Parce qu'on ne fait que débuter un travail, en fait, hein, sur la notion de pornographie. Mais on ne peut plus l'éviter maintenant dans nos interventions. Et on récupère aussi les individus, pour une petite partie, toute petite partie, en individuel, en accueil individuel, sur le planning familial. Et alors, beaucoup par le biais d'éducateurs, de suivi individuel, hein, qui se font, mais aussi on a quelques jeunes qui viennent et qui avouent être dans une addiction et commencent à rencontrer des difficultés à rentrer en relation avec l'autre.
Anna, Olivier, si j'ai bien compris, vous vous occupez de jeunes enfants dans le premier degré. Est-ce que dans votre pratique, que ce soit en tant que psychologue libérale ou en tant qu'intervenante dans les établissements, est-ce que c'est une question qui revient? Est-ce que vous êtes en contact avec cette question-là?
La question de la pornographie?
Ouais.
Non, pas trop.
C'est pas quelque chose dont on vous parle?
Non, c'est pas quelque chose qui vient dans le discours de manière naturelle. Non.
Ok, ça marche. Fabien Estelliano, du coup, je me tourne vers vous. Comment est-ce que les familles envisagent le programme EVARS par rapport à cette problématique des enfants confrontés à la pornographie?
Je pense que ce que disait en filigrane, il me semble, Rose Franchetot tout à l'heure, c'est important, c'est que dès la maternelle, la structuration de cet enseignement va permettre de sortir aussi des clichés de genre, sortir des stéréotypes, et à chaque âge, les stéréotypes vont être un peu détruits. Et si ça démarre si jeune, ça va permettre justement de construire beaucoup d'autres choses au fur et à mesure du temps. Donc je pense que la pornographie a aussi des inquiétudes à avoir pour dans 10 ans, ce que disait tout à l'heure Madame Chesneau, en disant il y a 8 ans on démarrait, je crois, dans du primaire, des travaux, et on voit aujourd'hui ces enfants avoir grandi et avoir eu une vision différente. Moi je crois sincèrement que l'EVAR puis l'EVARS, au fur et à mesure du temps, ça va nous permettre de déconstruire des visions qui vont permettre justement... On avait une formation, nous, parents d'élèves, au mois de septembre, là, à la rentrée, sur l'EVARS. Et je pense que je crois que c'était un intervenant du ministère, disait une chose, de la DGESCO, disait une chose intéressante. Il disait, voilà, si on a une société plus égalitaire, on a plus de chances d'avoir moins d'infections sexuellement transmissibles, on a plus de chances à l'avenir d'avoir moins de violences à caractère sexuel, et on a moins de difficultés dans le domaine que le planning familial, dans lequel il est particulièrement connu, on aura moins de grossesses également non désirées dans ces situations-là, parce que gérer sa sexualité, ça va permettre cela. Et ça démarre tout petitement sur les gestes, les personnes de confiance et les émotions, ce que disait Madame Olivier.
Et alors justement sur les violences, un autre objectif du programme, c'est de lutter contre les discriminations, mais aussi prévenir les violences sexuelles et le harcèlement. La lutte contre l'inceste est particulièrement revenue pendant les débats autour du programme EVARS. Mais concrètement, de quelle manière est-ce que l'éducation peut-elle lutter contre l'inceste et les autres violences sexuelles? Parce que aussi éduqué qu'un enfant soit sur ces questions, une fois qu'il est face seul à un adulte, on ne voit pas trop ce qu'il peut faire, même en connaissance de cause.
En CM2, alors juste une seconde, en CM2, ma fille me disait tout à l'heure, je lui en ai parlé, pour savoir, elle me dit, on a lu Apprendre à dire non. Donc déjà, je veux dire, le nom, il est pour... Oui, je ne le connais pas, cet ouvrage, mais ça m'a semblé intéressant. Et puis, pour ce que vous disiez, Charlie, juste avant, sur la question aussi des réseaux, elle me disait qu'elle avait eu une intervention extérieure autour des réseaux et tout cela. Donc, excusez-moi, Rose, je vous ai coupé.
Non, pas de souci. Non, mais pour moi, la priorité, déjà, en fait, c'est de faire comprendre à un enfant de 5 ans que... un adulte n'a pas le droit de toucher ses parties intimes comme ça, sans son consentement. Et en fait, apprendre à dire non à des enfants, à des adultes, c'est pas évident. Et c'est important que ce soit des adultes et de la part de personnes de confiance, telles que des enseignants et des enseignants, puissent leur dire « Papa, maman, tata, tonton, grand-père ou grand-mère n'a pas forcément le droit de toucher à tes parties intimes comme ça. C'est important qu'ils te demandent. » Et en fait, rien que ça, c'est faire comprendre à un enfant que quand on me touche, ben en fait, déjà, j'ai le droit de dire non, même si ça vient d'un adulte. Et c'est pas évident. Deuxième chose aussi, l'éducation à la sexuelle d'un enfant qui a été victime de violence se fait forcément par son agresseur. Et donc, c'est aussi important, pareil, d'avoir une prise de recul pour lui, à un moment donné, même s'il a 6 ou 7 ans, de lui faire comprendre que la sexualité, bah, c'est pas forcément ça. Et qu'il y a une autre, éducation, du coup, qui est possible. Donc, encore une fois, là, c'est juste une prise de recul pour déjà faire comprendre à un enfant, même très très jeune, qu'en fait, il a le droit de dire non. J'ai un petit exemple très très concret. Une de mes collègues, en 2023, a fait un podcast qui s'appelle « C'est quoi l'amour maîtresse ?» Elle s'appelle Lolita Rivet. Donc j'invite tout le monde à écouter ces 5 épisodes qui sont assez courts et très, très instructifs. Et en fait, justement, quand elle aborde la notion du consentement avec ses élèves de CE1 et qu'elle demande à ses élèves très concrètement qui a le droit de toucher à vos parties intimes, et ben, elle prend le témoignage d'une de ses élèves qui est en train de citer toutes les personnes de sa famille. Alors, bon, ça ne veut pas forcément dire que cet enfant est victime elle-même de violence, mais en tout cas, c'est intégré dans la tête de cet enfant de 8 ans que papa, maman, tonton, tata, grand-mère a le droit de me toucher. Et il y a même aussi un autre propos qui a été de dire un enfant... c'est dur qu'un enfant de 5 ans dise non aussi à un câlin. À un adulte, ce n'est pas évident. Parce qu'en fait, on va faire mal à l'adulte, on va faire mal à une personne qu'on aime. Donc, c'est important aussi de mettre des mots, en fait, là-dessus. Juste ça. Et c'est pour ça que, effectivement, voilà, c'est une manière très concrète de biaiser, en fait, ce cercle vicieux et de cesser une bonne fois pour toutes les violences sexuelles faites aux enfants.
Alors, Blondine Chenot, Anne-Olivier, je vous voyais au pied de la tête. Oui. Je ne sais pas si vous vouliez ajouter quelque chose.
Oui, alors tout à fait. Les enfants ne se sentent pas autorisés à dire non. Ça, c'est une certitude. Mm-hmm. Et pas que pour toucher les parties ou autres. Mm-hmm. Pour plein, plein d'autres choses. Les enfants sont quand même conditionnés à faire plaisir aux autres et notamment à ses parents. Et du coup, se positionner, c'est très, très compliqué pour eux. Donc, je suis d'accord avec vous. Le fait de les autoriser, mm-hmm. que quelqu'un de confiance les autorise à dire non, je trouve ça vraiment super et ça permet de s'affirmer aussi sur d'autres plans, en fait, sur d'autres plans. Et je ne peux qu'être d'accord avec ça.
Moi, j'ajouterais que j'étais la semaine dernière là, dans une classe de 3e prépa pro, je crois que c'est comme ça qu'on dit, dans une MFR. Et en fait, on a travaillé sur ce que voulaient dire les mots. On avait 2 heures, donc c'était très confortable. Mais on a vraiment travaillé sur les définitions, sur le harcèlement sexuel, qu'est-ce que c'est, l'agression sexuelle. Et le viol, naturellement. En fait, il y a de la confusion. Et c'est vrai que nommer dès le plus jeune âge, par exemple, les parties du corps qui vont être considérées comme du viol, je m'apercevais qu'en fait, il y avait la moitié de la classe qui était... qui était vraiment dans de la confusion de les oreilles, les orteils. Enfin, vous voyez, j'ai tout vu. Donc, il faut recaler un peu les choses, les définitions, les redire. Et puis, trouver la ressource. Et je crois que c'est vrai que dès le plus jeune âge, à partir du moment où les enfants savent déjà à peu près à qui aller en parler. Et je voyais sur ces troisièmes, là, prépa-pou, qui étaient quand même des élèves... Dans la campagne, on va dire, ils étaient tous un peu en train de chercher où est-ce qu'ils pourraient aller, la gendarmerie, s'il leur arrivait une agression, etc. Donc, trouver la ressource pour un enfant dès le plus jeune âge, je crois que c'est vraiment quelque chose d'important. Les élèves étaient assez scotchés sur... même une agression sexuelle, même du harcèlement sexuel, la différence, la notion qu'il y avait entre les deux, pour eux, c'était quelque chose de très flou, quoi. Pour eux, ils mettent tout ça dans « on est agressé et puis on ne peut rien faire », quoi.
Et à la sortie, j'avais quand même une jeune qui m'attendait et qui est venue vers moi et qui m'a dit « Moi, j'ai été violée à partir de l'âge de 9 ans et jusqu'à l'âge de 12 ans. Et en fait, je ne savais pas à qui en parler. Ma mère avait plein de problèmes, elle m'élevait seule et je ne trouvais pas, je ne savais pas à qui en parler. » Et voilà, et elle a réussi à l'âge de 12 ans à en parler à un enseignant. Mais la confiance aussi avec l'adulte, c'est travailler là-dessus, c'est aussi intéressant. Hein.
C'est pour ça, Charlie, je voulais juste vous dire, c'est pour ça que merci, parce que au travers de cette émission, on passe dans chacune des maisons. Et justement, nous, parents, on veut le dire justement que c'est important qu'il n'y ait pas que les parents qui en parlent, qu'il y ait aussi l'éducation nationale, et donc que la radio joue ce jeu-là aussi. Merci.
Et donc, je rebondis sur, sur ce qu'a dit Blandine Chesneau, justement, sur une enfant victime de viol, parce que, effectivement, c'est un point qui a fait beaucoup débat pendant l'élaboration de la loi. Parler de sexualité à des élèves, est-ce que c'est pas inadapté, etc. Et on a vu surtout qu'on abordait des sujets lourds. Donc on a parlé de pornographie, mais aussi de harcèlement, de violence, etc. Donc la question, en fait, se pose peut-être, est-ce que ces séances sont obligatoires pour les élèves, et est-ce qu'un élève qui se sent mal à l'aise peut quitter la salle, par exemple? Je me tourne peut-être vers vous.
Oui,
vers
oui. Non, mais je réfléchis si moi-même je me trouvais confrontée à cette situation. Alors, je pense qu'effectivement, l'idée, c'est pas de mettre les élèves mal à l'aise, et que si il y a vraiment un problème, une limite, peut-être qu'effectivement je proposerai à cet enfant de sortir. Néanmoins, par contre, il me paraîtrait très important de poser des mots derrière sur pourquoi ça le mettait mal à l'aise. D'avoir une médiation à un moment donné. Parce que peut-être qu'à ce moment précis, il y a quelque chose qui ne l'a pas mis bien, et que oui, on va peut-être, c'est peut-être, sachant le sujet sensible que ça peut être, c'est peut-être pas le moment d'aller bousculer des choses avec l'UOL. Par contre, néanmoins, moi, en tout cas, en tant que professionnelle, ce qui me paraît être primordial, c'est d'avoir une médiation avec cet enfant, avec un moment pour poser des mots sur pourquoi ça t'a mis mal à l'aise. Pour que, dans aussi le but, qu'il puisse pouvoir revenir et participer à ces séances qui sont malgré tout obligatoires et dans le programme. Mais c'est important, du coup, d'avoir une médiation avec lui et potentiellement avec les parents également.
Et je reste un peu avec vous, Rose Franchetot, parce que comme je l'ai rappelé en introduction, depuis 2001, les élèves devaient déjà avoir 3 séances par an d'éducation à la vie affective et sexuelle. Mais dans les faits, ça n'était pas le cas. Alors, est-ce que ce programme a davantage de chances d'être effectif? Comment les équipes enseignantes sont-elles accompagnées?
Bah, pas beaucoup. Et malheureusement, en fait, c'est bien une des premières limites de l'éducation, de l'enseignement de l'EVARS, en tout cas, et de l'EVARS dans le premier degré, c'est que déjà, effectivement, on manque cruellement de formation. À titre indicatif, je suis enseignante, ça fait 10 ans que j'enseigne, j'ai eu 0 heure de formation sur la question. Alors, j'en ai un petit peu via le syndicat.
Pourtant, l'État a annoncé effectivement 12 heures de modules en présentiel et des formations en ligne, ça n'a pas été fait.
Alors, effectivement, nous, sur le département, je sais qu'il y a quelques heures qui ont été proposées aux collègues, effectivement, qui rentrent dans ces formations qu'on appelle de la formation continue, donc qui font partie de nos obligations de service, mais c'est sur un public ciblé et je n'ai aucune idée du nombre d'enseignants que ça représente, mais fort à parier que c'est pas la majorité. Après, j'ose espérer que la DSEN a espoir que ça tourne et que d'ici quelques années, tout le monde puisse bénéficier de ces formations. Mais vous voyez, quand j'en parlais à mes collègues du syndicat, beaucoup n'étaient pas au courant de que cette formation avait été proposée. Donc ça, déjà, c'est un premier point, parce que ça reste quand même un sujet assez sensible, où moi, je comprends très bien les collègues qui ne se lancent pas parce qu'ils ne sont pas solides sur leurs appuis. C'est important aussi de savoir où on met les pieds et pouvoir répondre correctement aux questions des enfants. Et il y a aussi, pour moi, un deuxième frein. À ça, c'est toute la polémique qui a été créée l'année dernière d'associations, moi, que je qualifie de réactionnaires par rapport à ça, parce que effectivement, ça, quand on n'est pas solide sur ses appuis et que potentiellement on sait qu'on a des parents qui vont peut-être nous demander un rendez-vous, des explications par rapport à l'enseignement de l'EVARS, moi je comprends très bien les collègues qui n'ont pas forcément envie de se lancer là-dedans. Et donc nous, ce qu'on dit, c'est que déjà, il faut qu'on ait des formations de qualité pour pouvoir nous permettre d'être guidés et d'être sereins dans ce qu'on fait. Et qu'il y ait une protection assurée de l'institution en cas, du coup, d'attaque qui peuvent être agressifs, parce que ça a été le cas. Nous, on a des collègues qui se sont lancés là-dedans il y a 2 ans et en fait avaient prévenu les parents que l'infirmière scolaire interviendrait à ce sujet. Et il y a eu des réponses de parents qui en plus se sont construits parce que justement il y a cette polémique et qui n'ont pas forcément les bonnes informations en main.
Qu'est-ce qui pointe du doigt par exemple?
Que ce que vous disiez, c'est que pourquoi parler de sexualité à des enfants? Ça doit rester dans le cadre familial. On va les bousculer, on va leur mettre des idées en tête. Ce genre de reproche qui peut être fait. Alors même que justement, c'est pour le bénéfice des enfants et que les programmes. Moi, je me rappelle que l'année dernière, on parlait de cours de masturbation en classe de maternelle. Il est absolument pas question de ça dans les programmes. Par contre, un bon point, ce qu'un exemple qui a eu lieu l'année dernière, c'est une directrice du département qui a su pendant le week-end que le lundi qui suivait, donc dans 2-3 jours après, il y avait une campagne de boycott national, donc de ces associations réactionnaires, et donc qui encourageait leurs enfants, les parents, à ne pas mettre leurs enfants à l'école en signe de protestation. Et il se trouvait qu'il y avait quand même une trentaine de familles qui étaient concernées, et il a suffi d'un mail de la directrice, envoyé le dimanche, pour rappeler juste ce que sont les programmes, qu'est-ce qui se passe concrètement dans les classes, et que si besoin, on n'hésitait pas à venir la voir, pour qu'au final, il n'y ait que 2 enfants qui ne viennent pas. Et sur ces 2 enfants, un petit coup de fil, et à 10h, ils étaient présents. Donc comme quoi, il y a quand même une relation de confiance qui est là entre les enseignants et les familles, et c'est important de la préserver, pour que justement, si jamais il y a le moindre questionnement qui peut s'entendre, parce qu'en tant que parent, on a envie de protéger son enfant, c'est normal, et nous, on est aussi là pour ça. Mais voilà, juste, il y a une campagne de désinformation telle que les parents n'ont pas forcément les bonnes notions et les bonnes informations en tête. Voilà, moi j'encourage tous les parents qui seraient dubitatifs ou sceptiques ou qui seraient craintifs par rapport à cet enseignement à venir nous voir tout simplement et à nous questionner sur concrètement comment ça se passe et comment ça va se passer.
Fabio Estelliano, sur cette question de la relation avec les parents, est-ce que vous avez déjà reçu des inquiétudes de la part de parents d'élèves, des questionnements, des incompréhensions autour de ce programme?
Depuis janvier, on a pas mal reçu de questionnements sur de parents d'élèves qui voulaient aborder le sujet dans les écoles, avec les adultes, plus que vraiment des critiques. Donc nous, c'est plutôt cela sur quoi on a conseillé, c'est de vraiment aller voir toutes les instances des établissements scolaires, les conseils d'école pour les plus jeunes, et puis par exemple le conseil d'administration en collège ou lycée, mais également le CESCE au sein des établissements secondaires. C'est dans ces instances-là où on peut dire quelle est la programmation que vous avez dans cet EVARS ou dans cet EVAR, et qu'est-ce que vous avez prévu, comment vous avez prévu de réaliser ça, est-ce que vous allez avoir des interventions extérieures, parce que c'est aussi, alors ça marche super bien pour un parent, c'est vrai que c'est le planning familial, on en a parlé à ce micro déjà pour les baisses de subventions régionales, on a un grand soutien aussi envers le planning familial, parce que ces interventions extérieures, ça nous fait aussi beaucoup de bien dans nos écoles, parce que ça nous montre qu'on est une société qui tourne avec plein d'autres choses que uniquement les 2 acteurs de la coéducation que sont les parents et les enseignants. Donc non, nous, cette année, on n'a pas eu pour l'instant a priori de retour d'inquiétude sur ce sujet. Mais à l'inverse, on a des retours de violence en milieu scolaire à caractère sexuel, et ça, on en a des retours et avec de grandes inquiétudes. Et
Anna-Olivier, j'imagine que vous êtes en contact avec certains parents des enfants que vous recevez. Est-ce que vous, de votre côté, vous recevez des inquiétudes ou des questionnements sur le programme EVARS?
À ma connaissance, je n'ai pas d'inquiétude de la part des parents. Je crois qu'il y a beaucoup de fausses idées qui ont circulé, notamment dans les réseaux sociaux. Donc du coup, ça a semé la panique, hein, comme tout, comme à chaque fois, on va dire. Et je crois que associer les parents, les informer, leur dire exactement de quoi il s'agit. Je trouve que c'est vraiment le meilleur moyen pour que ça se passe au mieux. C'est déjà compliqué, je trouve, pour les enseignants de mettre ce programme en place. Si en plus, il faut avoir peur des parents ou des retours de bâton des parents, ça peut être encore plus compliqué.
Blandine Chéneau.
Moi, je voudrais parler de l'expérience du planning familial. Et ce soir, l'enseignement catholique a décliné l'invitation. C'est bien regrettable parce qu'on a eu une expérience avec un collège de l'enseignement catholique, ce qui est quand même assez rare qu'ils viennent vers nous. Mais, et donc, on avait plusieurs groupes. Hein, on avait 6 groupes qui devaient venir, des classes de 3e. Et il y avait beaucoup de réticences, on avait senti, on nous a demandé le programme, les contenus, etc. Comment ça allait se passer, si on pouvait assister. Alors on leur a dit, ouais, pas de souci, quelqu'un peut assister. Donc au départ, on a eu un surveillant général qui est venu. Bon, voilà, il était là. Et puis en sortant, il a dit, oh, c'est génial ce que vous faites et tout, mais c'est extra. Et puis alors, les jeunes sont super contents, bon, on va très bien. Deuxième groupe, on a eu droit à la présidente de l'association des parents d'élèves qui est venue, qui nous a dit à la sortie, franchement, je ne m'attendais absolument pas à ça. J'avais beaucoup d'appréhension sur... pourtant, on avait le contenu, mais bon, c'est le planning, vous avez une réputation. Je lui ai dit, ah bon, vous m'expliquerez ça. Et l'après-midi, on a eu droit au directeur de l'établissement. Je me suis dit, ça ne suffit pas. Maintenant, on a le directeur qui va venir nous inspecter. Et c'est lui qui a demandé à me voir à la sortie. Parce que je me suis dit, bon, allez, on a passé notre examen ce matin. Je trouve que c'est déjà pas mal. Et puis, en fait, il est venu me voir. Et il m'a dit, franchement, j'ai vraiment une autre idée de ce que fait et ce que propose le planning familial auprès des jeunes. Et je suis très content. Et on va réitérer... notre demande pour l'année suivante. Donc, je trouve que c'est pas forcément... en effet, l'image du planning familial, quelquefois, elle est beaucoup sur l'image du préservatif et qu'on en donne à tout va. Je schématise très, très rapidement et qu'on encouragerait tous les jeunes à passer à l'acte. Moi, je dis toujours aux jeunes, souvent, enfin, j'interviens moins dans les établissements, mais quand j'intervenais beaucoup à une période, je mettais souvent le mot sexualité au tableau et je leur disais, vous allez venir écrire quel mot, à quoi ça vous fait penser. Et en fait, je leur dis, mais la sexualité, vous pensez tout de suite rapport sexuel entre deux personnes. Et en fait, sexualité, c'est déjà être homme et femme dans des corps sexués. Et on va repartir de là, quoi. Et en fait, en effet, ils ne s'attendent pas du tout à ça. D'ailleurs, ça les déstabilise pendant un petit temps. Parce qu'ils se disent, ah bah tiens, en fait, on ne va pas forcément parler de pénis ou de vulve ou de vagin. Voilà, ça ne va pas être, ça va pas être que ça, quoi.
Hein. Et alors, justement, sur ces interventions que vous faites dans des établissements, est-ce que c'est des interventions qui s'inscrivent directement dans le cadre du programme EVARS ou c'est des interventions supplémentaires, entre guillemets?
Moi, je pense qu'on est en complémentarité parce qu'on a aussi notre spécificité et on n'est pas au contact des jeunes tous les jours ou des enfants si on intervenait encore en primaire. Et on a autre chose. C'est une autre relation qu'on va avoir avec eux où on est d'abord, on leur dit, on est dans l'anonymat, on est dans la confidentialité. On leur dit par contre, s'il y a quelque chose de grave qui est révélé, on peut aussi casser cette confidentialité, on pose un cadre aussi, le respect des uns et des autres, que chacun a ses connaissances, chacun vit dans un milieu aussi familial, qui a ses repères, qui a ses traditions, ses coutumes, parfois sa religion aussi qui intervient, donc on pose un cadre aussi par rapport à ça. Et le fait qu'ils ne nous connaissent pas... je trouve qu'il y a certainement encore quelque chose de complémentaire par rapport à ce qui est fait avec les enseignants. Enfin, on l'a vu sur quelques années collège où nous, on n'intervient qu'en troisième. Et il y a déjà eu un travail qui a été fait parfois par le prof de SVT en quatrième ou par l'infirmière scolaire. Et elle dit, mais moi, j'aime bien quand le planning intervient parce qu'il y a aussi des choses qui se disent qui ne vont pas se dire avec moi.
Je vous posais la question aussi parce que la question se pose de qui sont les intervenants en fait sur ces séances du programme EVARS. Par exemple, Anna Olivier, donc vous êtes psychologue, vous intervenez dans les établissements d'enseignement catholique. De quelle manière est-ce que vous êtes intégrée dans ce programme?
Alors nous, on accompagne, alors au niveau des psychologues de la direction diocésaine, On travaille plutôt, on a des missions plutôt au niveau individuel, c'est-à-dire qu'on rencontre des familles, des enfants ou des jeunes à titre individuel. Depuis quelques temps, on est sollicité pour travailler dans des groupes, mais ça reste quand même assez exceptionnel. Au niveau du programme EVARS, on accompagne les chefs d'établissement. Donc, il y a un groupe qui a été dédié pour travailler autour de ce thème et pour accompagner les chefs d'établissement afin qu'ils puissent mettre au mieux ce programme en place. Et il y a une collègue, une psychologue, une de mes collègues qui participe à ce groupe. Donc, il s'agit effectivement de trouver des intervenants, des associations, des gens qui pourraient intervenir auprès des jeunes dans les établissements. Alors, est-ce que nos missions vont évoluer? Mais en tout cas, on n'intervient pas directement, nous, dans les groupes d'enfants ou de jeunes pour le moment.
Mais par contre, on vous a quand même parlé du programme EVARS.
Oui, on y est associé, si vous voulez. Mmh. On y est associé au niveau institutionnel, puisque le groupe dont je parlais, c'est au niveau de la direction diocésaine, donc c'est institutionnel. On y est associé. Toutefois, voilà, nos missions, alors on a déjà beaucoup de tâches, mais nos missions pour le moment ne s'étendent pas dans des interventions directement dans les groupes.
Parce que les détracteurs du programme EVARS ont invoqué l'atteinte à la primauté éducative des parents et l'atteinte à la vie privée. Alors avec tout ce qui s'est dit dans cette émission, on peut effectivement questionner cet argument, mais il pose quand même une question importante. Comment en effet aborder des questions qui touchent à l'intimité sans justement nuire à cette intimité? Est-ce que ça demande une distance, un équilibre, des compétences professionnelles en fait? On a vu que c'était pas toujours évident, même pour Blandine Chesneau qui travaille quand même au planning familial. Est-ce que les formations données aux enseignants sont suffisantes pour garantir cette capacité d'entretenir le bon rapport avec les élèves? Rose Franchetot, on a cru comprendre que c'était pas encore ça. Comment est-ce que vous sentez, vous, d'intervenir devant des élèves sur ces questions-là? Et encore, vous êtes dans le premier degré, vous n'avez pas encore à aborder trop la sexualité.
Oui, effectivement, c'est... on a effectivement une formation qui est absolument pas suffisante là-dessus. Par contre, moi, j'ai une grande confiance dans les gestes professionnels de mes collègues qui, en fait, faisaient de l'EVARS bien longtemps avant que le programme soit en place. J'ai un exemple très, très concret. Moi-même, en fait, il y a quelques années, j'avais une élève dans ma classe de grande section qui faisait des bisous à plein d'enfants. C'est très gentil, un bisou. Sauf qu'en fait, elle avait en face d'elle des enfants qui ne voulaient pas que cette élève-là leur fasse des bisous. Donc en fait, ça a été un accompagnement pendant toute l'année d'expliquer du coup à cet élève que non, en fait, avant de faire un bisou à un enfant, même si c'est très gentil, même si tu es pleine d'amour pour ces enfants-là, en fait, il est important que les enfants en face soient réceptifs à ça. Et s'ils te disent non, tu dois l'accepter. En fait, moi, sans le savoir, je travaillais le consentement avec cet élève-là. Et donc, mine de rien, on faisait de l'EVARS sans le savoir. Et pareil, vous parliez d'intimité tout à l'heure. En fait, si c'est encore l'exemple d'une élève qui arrive en petite section et en fait, qu'on remarque qu'elle se touche la vulve quand elle est inquiète. Et c'est pareil, il a fallu accompagner cet élève-là pour lui faire comprendre que, alors, il n'y a pas de mal à ça, c'est pas grave. Par contre, néanmoins, il y a des lieux pour le faire. Et l'école, la classe, n'est pas un lieu pour se toucher la vulve. Donc, en fait, il a juste fallu accompagner ça, faire comprendre ce que c'est que l'intimité, qu'il y a des gestes qu'on a le droit de faire, mais néanmoins, enfin, qu'on a le droit de faire sur soi-même. Néanmoins, il y a des espaces et des lieux pour le faire, et c'est de l'accompagnement, tout simplement. Et ça, pour le coup, je pense que c'est plutôt, ça peut se faire sur du cas par cas, sur des élèves comme ça qu'on a repérés, qu'on a remarqués. Mais rien n'empêche de l'aborder en classe aussi également, en groupe.
Fabien Esteliano, quel va être le lien avec les familles? En tout cas, quel lien les familles demandent-elles? Dans quelle mesure est-ce qu'elles vont être informées et concernées par ces séances de programme EVARS? Quel suivi est-ce qu'elles veulent avoir?
Vraisemblablement, je crois que l'avancée elle a du programme EVARS, déjà, c'est qu'on plante un programme, on le pose. Mais je pense que justement, de mémoire, la différence est justement qu'il n'y a pas d'annonce à l'avance. Dans l'époque actuelle, les annonces au préalable peuvent provoquer des difficultés. Donc je crois qu'il n'y a pas d'obligation dans la loi, hein, d'annonce à l'avance. Et ça peut se comprendre. Alors nous, ce qui est important, c'est quand même, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que ce soit abordé dans les instances d'un établissement scolaire, de la maternelle jusqu'au lycée. ce qu'on aime peut-être moins dans cette nouvelle mouture, c'est que on propose un peu plus facilement de l'isolement. C'est-à-dire que précédemment, quand même, l'éducation à la sexualité, ça souvent se faisait avec un acteur extérieur. C'est pour ça que le planning familial a très souvent été appelé en renfort. Et puis avec un acteur interne. Maintenant, c'est aussi permis de le faire avec un acteur de l'établissement, un enseignant seul. Et ça, c'est ce type d'isolement peut nous inquiéter. Donc si nous, on a aussi une place pour les accompagner dans cette inquiétude, oui. Sinon, non, les parents, on ne réclame pas, évidemment, d'avoir une place dans ce cas précis plus importante dans les discussions. Si ce n'est, moi je trouvais que c'était intéressant ce que Madame Chéneau et vous, Charlie, vous avez utilisé tout à l'heure comme intervention, c'est que très souvent finalement on parle d'infirmières et de professeurs d'SVT. Et mmh. C'est vrai que c'est une de nos inquiétudes aussi, c'est que ce programme-là devrait nous aider à avoir plus d'acteurs divers. Mmh. Et c'est vrai qu'on se réjouit d'avoir Madame Olivier aussi dans la psychologie pour dire qu'il y a quand même des acteurs de tout type qui peut venir aborder tout cela. Et ça, c'est des petits bémols sur lesquels on est aujourd'hui, parce qu'on a quand même presque 30 ans d'expérience, on a 25 ans d'expérience, peut-être même plus. Moi, je l'ai connu en tant qu'enfant, donc bien plus, grâce au planning familial et à d'autres associations et justement prestataires ainsi. Mais je pense qu'il y a encore des choses sur lesquelles on doit avancer. Mais la place des parents n'est pas obligatoirement importante là.
Alors nous, si je peux compléter, nous ce qu'on conseille aux collègues, c'est d'en parler à la réunion de rentrée par exemple, en fait, où on invite les parents, on présente en fait tout simplement le fonctionnement de la classe, et on peut très bien aborder le fait que dans les programmes, au même titre qu'on va apprendre des multiplications posées et la Seconde Guerre mondiale, on abordera la question de l'EVAR, c'est du coup comment ça se présentera. C'est l'occasion pour les parents de poser leurs questions sur comment ça se passe et de les rassurer aussi en même temps. Et voilà. Et puis si jamais il y a des demandes particulières, faut pas hésiter surtout à demander des rendez-vous à l'enseignant de votre enfant là-dessus. En tout cas, c'est plutôt on aura tendance à conseiller ça du coup aux collègues.
Et le concept d'EVAR aide quand même.
Oui.
Parce qu'il faut dire la vérité, la loi Aubry, c'est l'éducation à la sexualité. Hein. Donc déjà en primaire, on permettait ce concept de sexualité qu'aujourd'hui on retire. Hein.
Oui, oui.
Mais au moins, pour compléter, voilà, si dans les réunions de rentrée, on peut rapidement, comme vous l'avez fait en introduction, expliquer ce qu'est l'EVAR, ça simplifierait quand même bien les choses. Oui.
Alors Anna, Olivier, une petite question, puis après on conclura avec Blandine Chéneau. Vous disiez tout à l'heure que vous étiez associé au programme EVARS. Je voudrais juste une petite précision. Est-ce qu'on vous a parlé de programme EVARS ou de programme EARS? C'est-à-dire, est-ce qu'il y avait un V ou pas sur le titre du programme?
Vous voulez dire celui de l'éducation nationale?
Celui de l'enseignement catholique.
Ah, alors l'enseignement catholique, c'est l'EARS.
C'est
effectivement,
ça.
Depuis quelques années, il y a un programme qui a été émis par le secrétariat général au niveau national sur déjà une éducation à la vie relationnelle et sexuelle qui était donc l'EARS. Et donc tous les établissements catholiques au niveau national travaillaient déjà sur ces sujets-là.
Et du coup, vous êtes associé à quel programme? Celui de l'enseignement catholique ou celui de l'éducation nationale?
Du coup, là, ça se rejoint. Ça se fusionne, si vous voulez. Puisque avant le programme, avant cette année, il y avait l'EARS. Et donc là, l'EARS devient l'EVARS, puisque c'est un programme obligatoire de l'éducation nationale.
Ah, donc l'EVARS se substitue à l'EARS, ou alors l'EARS est toujours présent et...
L'EARS devient EVARS.
D'accord.
Tout simplement.
Ok, très bien. Je demandais parce que le...
C'est juste que c'était quelque chose de pas obligatoire au même titre que le programme aujourd'hui. EVARS, mais il y avait déjà des choses qui étaient travaillées au sein des établissements, enfin comme le disait Rose.
Il y avait quand même des petites
Il y avait déjà des choses de fait, et puis les enseignants faisaient déjà de l'EVARS sans même le savoir finalement, et là ça vient structurer un peu les choses, cadrer.
Je précise qu'il y a quand même une petite distinction entre les deux, c'est que dans la brochure on peut lire que le programme EARS, mis en œuvre dans les établissements de l'enseignement catholique, s'appuie sur l'enseignement de l'Église, s'inscrit dans le cadre légal proposé par la loi et met en œuvre sa proposition dans une perspective qui lui est propre, tout en respectant le cadre donné par le programme. Et quand on dit tout en respectant le cadre donné par le programme, je précise qu'il parle du programme de l'éducation nationale. Donc c'est pour ça, il y a une espèce d'ambiguïté quand même dans la brochure sur est-ce que ce programme compte se substituer ou non au programme de l'éducation nationale, en fait.
Alors là, dans les faits, je ne sais pas.
Je sais bien que vous ne travaillez pas au sein même des établissements catholiques, ouais. Vous êtes psychologue qui intervenait, c'est pour ça que je vous demandais si on vous a parlé d'être associé à un programme qui s'appelle EARS ou EVARS.
Alors, c'est ma collègue qui le fait, donc c'est-à-dire que jusque-là, elle travaillait avec ce groupe-là autour de l'EARS, donc. Et puis, depuis la rentrée, ce groupe-là s'est transformé en groupe EVARS.
D'accord.
Et donc, du coup, elle participe au même titre de psychologue.
Et alors, Blandine Chéneau, pour finir avec vous, est-ce que le programme EVARS est un premier pas? Est-ce qu'il est perfectible, ou bien est-ce qu'il apporte une réponse satisfaisante à l'exigence d'éducation à la vie affective, relationnelle et à la sexualité, dans la mesure en tout cas où il serait correctement mis en place? Quel est l'avis du planning familial sur ce programme, en fait?
Mais si le programme est mis réellement en place comme il est décrit, c'est très bien. C'est très bien. J'ai envie de dire, c'est tout au long de la vie que ça doit pouvoir aussi se faire. On parle des parents d'élèves, mais moi je parlerais des parents aussi. Tout simplement, hein, quand on a mis en place le programme de la mallette panda, 8 ans, dans les écoles primaires, on avait 4 séances avec les classes. Et on avait proposé une séance supplémentaire pour les parents. Eh bien, on a abandonné l'idée parce que les parents n'étaient pas au rendez-vous. Enfin, si, quelques parents très, très avertis d'ailleurs, qui étaient des fois même, autant que les enseignants, étaient bien, bien au fait des choses. Et voilà, c'est... moi, je pense que réellement, ce programme, il va sensibiliser les familles aussi. Peut-être un peu plus, parce que 3 séances, ça va quand même marquer. Nous, on en rêve depuis des années, le planning familial, de pouvoir faire 3 séances par classe. Là, on voit bien la volonté. On est appelé tous les jours. Je reçois des mails pour venir aussi suppléer, parce qu'en effet, il y a un certain nombre d'enseignants qui aimeraient bien faire, mais qui manquent pour l'instant de formation. Et puis, pour d'autres qui disent, on ne va pas se priver quand même de l'intervention du planning, parce que ça ouvre aussi d'autres champs. Et puis sur les lycées, il y a quelques professeurs qui sont, quelques enseignants qui sont formés et qui disent, on va se partager les niveaux, quoi. Peut-être que vous pourriez faire les secondes et nous, on va peut-être faire les premières et les terminales. Mais je pense qu'aussi, et notamment chez les primaires, pour revenir sur la question dès le plus jeune âge, parce que c'est quand même là qu'il faut le travailler aussi, moi je suis ravie que ça se fasse aussi en primaire et en maternelle, et je pense qu'il devrait y avoir une séance obligatoire pour les parents. Parce que ce sont normalement les premiers éducateurs quand même. Et qu'est-ce que c'est tordu quand l'enfant entend, et on l'a vécu sur certaines écoles primaires quelques années, des enfants qui entendaient des choses dans ces séances-là, et qui entendaient autre chose, à la maison le soir, quand ils essayaient de raconter ce qu'ils avaient vécu. Et c'est vrai qu'on a eu des enseignants qui nous ont fait quand même des retours de ça, où c'était, ça pouvait être quand même, j'imagine, quand même compliqué dans la tête de l'enfant si à la maison on tient un autre discours. Quoi.
Et bien, des séances pour les parents, il faudra donc proposer ça au ministère de l'Éducation nationale.
C'est la marge de progression.
Exactement. C'est la fin de cette émission consacrée au programme EVARS, éducation à la vie affective et relationnelle et à la sexualité. Programme mis en place dans les écoles, collèges et lycées depuis cette rentrée 2025. J'espère que nous aurons réussi à éclairer les questionnements qui pouvaient entourer ce programme et vous aider à mieux le comprendre, vous qui nous écoutez. Je remercie donc nos invités, Blandine Chéneau, coordinatrice du pôle conseil au planning familial du Mans, Fabien Esteliano, vice-président de la Fédération des conseils de parents d'élèves des écoles laïques en Sarthe, ou FCPE 72, Rose Franchetot, co-secrétaire départementale du FSU SNUIPP, syndicat représentatif du corps enseignant du premier degré, et enfin Anna Olivier, psychologue spécialisée dans le développement de l'enfant, intervenant dans les établissements d'enseignement catholique en Sarthe. Merci à toutes et à tous.
Merci.
Bonsoir. Quant à nous, on se retrouve jeudi 13 novembre pour C'est d'Actu sur Radio Alpa, bien évidemment.